L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission, le magazine de Radio Évasion, magazine qui aime l'histoire antique. Certaines finistériennes qui connaissent bien cette histoire contribuent grandement à notre intérêt. L'Antiquité de préférence romaine, l'Antiquité bien vivante aussi. On entre dans la tête des citoyennes et citoyens de la République, puis de l'Empire. On entre aussi dans leur corps, surtout avec notre invitée. Souvenez-vous, elle nous a fait découvrir en 5 épisodes quelles images, quelles visions les Romaines et Romains avaient de leur corps à tous les âges de la vie, marqués par de grands et de petits rituels de la naissance à la mort. Et nous la retrouvons donc aujourd'hui, toujours sur un thème corporel et même charnel. Aujourd'hui, on n'a pas assez mangé pendant les fêtes. On redonne donc un banquet. Alors c'est vrai, tout de suite, on visualise les banquets dans Astérix, la Grèce du Russe avec du miel, les langues de rossignol, les dames qui se refont une laideur, les danseuses, l'ambiance, un rien décadente. Bonjour Pauline Huon.
Bonjour.
Alors le banquet à la romaine, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il faut le définir finalement, on croit savoir, mais on ne sait pas.
Oui, alors en plus on a des images assez attachées au péplum, on voit les Romains se baffrant de toutes sortes de nourriture, d'alcool et puis de loisirs, on va dire, un peu décadents. Alors effectivement, il y a une part réelle dans ces descriptions qui sont mentionnées par les auteurs romains, mais surtout justement pour pointer l'absence de bonnes mœurs des organisateurs de ces banquets. Un banquet, c'est vraiment un repas pris en commun, c'est vraiment la notion de commensalité, de partage d'un repas entre plusieurs convives qui va se différencier de la pratique habituelle. Et donc ça se différencie par le nombre d'invités d'une part et par la qualité, la quantité de mets qui seront proposés justement à la dégustation.
Mais surtout, il y a une occasion, on ne fait pas un banquet comme ça là juste parce qu'on a décidé de manger ensemble en fait, c'est ça?
Non, alors il y a plusieurs sortes de banquets, il y a plusieurs types de repas pris en commun. Il y a d'abord des banquets qu'on appelle publics, qui vont être pris à l'échelle de la cité, alors qu'ils vont recouvrir soit toute la population, soit certains membres, souvent d'ailleurs les membres de l'aristocratie. Hein. Et on a également donc, des banquets qui vont être organisés pour des fêtes religieuses, mais aussi pour des événements dits plus privés. Dans le cadre des rites de passage dont on a déjà parlé ensemble, tels que la naissance, le passage de l'enfance à l'âge adulte, le mariage et les funérailles. Et après, on a des invitations vraiment privées qui vont se dérouler entre certains membres de l'aristocratie, dans les demeures, du coup, dans les riches demeures.
Mais il y a quand même toujours un côté rite de passage quand on fait un banquet proprement dit.
Alors, pas rite de passage à proprement parler, il y a un côté rituel certain, hein. On a un ordre spécifique pour consommer les aliments. Après, les banquets organisés dans le cadre des rites de passage, eux, vont être bien spécifiques. Leur rôle, c'est vraiment d'entériner la nouvelle situation sociale de l'individu aux yeux de la communauté et avec cette communauté.
Alors, qui organisait des banquets? Enfin, est-ce qu'il y a toujours eu des banquets déjà dans l'histoire antique romaine?
Alors, a priori, oui, il y a cette notion de partage d'un repas en commun qui est très intéressante et très importante. On le retrouve d'abord en Grèce, hein, mais avec une signification un peu différente, puisque en Grèce, les banquets vont être essentiellement masculins, entre citoyens. Et généralement, ça se passe en deux temps, avec, dans un premier temps, ingérer de la nourriture, et dans un second temps, qu'on appelle le symposium, c'est on va dire la partie un peu plus agréable du banquet où on va boire de l'alcool. À Rome, le banquet est un peu différent. Les femmes y sont conviées, contrairement à la Grèce, et les enfants aussi. Et participer à un banquet, surtout pour les enfants, c'est aussi se frotter un peu à la culture des adultes et entrer un peu dans les sphères de discussion intéressantes, telles que politique, etc.
Mais c'est quand même, il faut être patricien, enfin, il n'y avait pas de banquets d'esclaves par exemple?
Alors des banquets d'esclaves non, par contre il n'y a pas que les aristocrates qui font des banquets, on peut retrouver par exemple des banquets dans des associations de métiers par exemple, avec bien sûr un repas beaucoup plus frugal, hein, ce qui va caractériser vraiment les banquets des patriciens et des aristocrates surtout, c'est le caractère ostentatoire des plats qui vont être servis, le nombre, l'exotisme aussi des mets proposés. Et aussi et surtout tous les divertissements qui accompagnent justement ces banquets.
Alors, on va revenir en détail sur tout ça, bien sûr. Alors, qui organisait les banquets? Il fallait avoir un peu d'argent, quand même. Enfin, c'était
oui.
quoi?
Alors,
c'était
effectivement, quoi, c'est surtout des patriciens. Alors, on va appeler ça des banquets évergétiques, c'est-à-dire des banquets qui sont offerts par des riches personnages influents qui vont justement faire profiter la population de tout ce genre de libéralité. Alors, il va y avoir des distributions d'argent et aussi de nourriture.
L'évergétisme, en général, c'était une sorte de mécénat public, c'est ça?
Tout à
c'était
fait.
Un riche qui offrait des jeux aussi, ça pouvait être...
Des jeux, voilà, ça ouais. peut être ouais, voilà, mmh. des jeux, de la nourriture, des distributions d'argent aussi, pour plusieurs occasions. Mais vraiment, la nourriture, c'est quelque chose qui est cher aussi aux anciens. Le banquet, c'est en premier lieu bien manger et bien boire.
Et est-ce que, comment dire, donc c'était toujours gratuit, j'en déduis que c'était... Enfin, est-ce qu'il y avait des banquets payants, d'accès payant?
Alors, dans les banquets des fêtes religieuses, par exemple, on achète sa part de viande. En fait, on va sacrifier un animal. Et donc, le sacrifice va servir à partager finalement les relations des hommes et des dieux. Les dieux vont recevoir la nourriture qui va être brûlée sur les flammes de l'autel. Et ensuite, toute la viande va être découpée et partagée entre différentes personnes. Et donc, c'est des bouchers qui achètent cette viande et qui les vendent. Justement, chacun va avoir sa petite part de viande. Ça, c'est pour les fêtes religieuses. Après, vous avez... dans le cadre des banquets évergétiques, vraiment l'organisateur qui offre la nourriture justement à ses convives.
Alors, on l'a déjà un petit peu passé en revue. Donc, les occasions de faire un banquet, c'était donc des rituels religieux, de l'évergétisme pur et simple. Enfin, voilà. Il y avait aussi les moments dont on a parlé, familiaux.
Familiaux, donc ça peut être à la fois pour célébrer des naissances, mais aussi des anniversaires, ce qu'on appelle les dies natalis, qui sont célébrés chaque année avec des banquets qui vont réunir des amis, des membres de la famille, des personnes qu'on a envie d'inviter pour honorer tel ou tel membre de la société, etc. Et après, vous pouvez avoir aussi des banquets qui sont organisés dans des collèges sacerdotaux, par exemple, des banquets annuels, par exemple, des augures ou des vestales qui vont justement se retrouver autour de la nourriture pour échanger sur des sujets divers.
Et alors, quel est le programme du banquet? Enfin, apparemment, il y a un ordre précis, enfin, il y a tout un... Comment dire, enfin, en tout cas, dans les cas rituels, alors, qu'est-ce qu'on mange en premier? Qu'est-ce qu'on...
Alors, normalement, on a une première collation, on va dire, qu'on qualifierait, nous, d'entrée, qui sert à la fois à calmer l'estomac, mais aussi à exciter l'appétit pour la suite. Ensuite, vous avez... Donc,
ça peut être quoi, par exemple, enfin, juste pour avoir une idée
Ça peut être des petites crêtes de coq avec une sauce au miel, par exemple.
D'accord.
Et aussi, alors, on a aussi cette idée avec notamment les recettes d'Apicius qui présentent des produits exotiques, mais il faut savoir que le repas vraiment traditionnel romain, il est plus végétal.
Ouais.
On a surtout du blé, des légumes, des choses comme ça. Et après, finalement, on va se distinguer des autres en offrant justement toujours plus de viande exotique ou de sauce ou d'agréments autour de ces repas. Mais donc on a ça, et ensuite il y a la partie symposium, donc de consommation d'alcool. Alors les Romains, ils brouillent un peu tous ces codes-là. En fait, on va servir du vin tout au long du repas. Par contre, vous avez des recettes, notamment chez Caton l'Ancien, qui rédige justement un traité d'agriculture où il conseille avant les repas, avant d'aller à un banquet, de consommer du chou dans du vinaigre, et il nous dit que de cette manière-là, on ne va pas vomir et on va pouvoir se baffrer tant qu'on veut, finalement.
Donc, on a une entrée, puis après, il y a
un
plusieurs
repas,
plats.
Un voilà, repas, à base de viande, généralement. Hein. Alors, souvent, il y a plusieurs plats différents qui sont proposés. Et il faut savoir qu'à la table des aristocrates, comme ça, finalement, il y a une certaine hiérarchie entre les convives. Et donc, forcément, les convives les plus importants vont avoir des mets plus prestigieux. Idem pour le vin. On va réserver les grands vins... aux hôtes de marque, et les autres vont se contenter d'un vin inférieur. Alors, pas forcément de la piquette, mais quand même des vins qui sont de moindre qualité.
Et comment sont installés les convives au banquet? Est-ce qu'ils sont tous allongés, comme on voit dans...
Alors, Paris, effectivement, il y a cette idée. Donc, la salle à manger s'appelle le triclinium. En fait, c'est trois banquettes qui sont disposées comme une sorte de U inversée ou de lettre pi grecque, avec une petite table au milieu. Et donc, il y a deux manières de tenir dans un banquet. Donc les hommes, eux, sont semi-allongés, ce qui va rendre assez difficile aussi la consommation de nourriture. Donc, on est accoudé généralement sur son bras droit ou son bras gauche et on se sert de la nourriture avec sa main droite. Et donc, ça veut dire qu'il faut que les plats soient déjà prédécoupés. On va se servir des petits morceaux. Les femmes, elles, vont être assises tout comme les enfants. On a comme ça une distinction, en fait, genrée dans la manière de se tenir. Et justement, lors du premier banquet de passage de l'enfance à l'âge adulte, le jeune homme aura la chance, finalement, de pouvoir prendre son premier repas allongé comme les hommes. Sinon, ils sont assis avec les femmes.
Bon. Et alors, combien ça, c'est censé durer ? Est-ce qu'il y a une durée moyenne, enfin.
Je ne sais pas exactement. Je pense que ça devait durer quand même un certain temps en fonction justement de nombre de plats qui sont proposés et surtout en fonction des distractions proposées. Donc, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps, mais une bonne partie de la soirée certainement, voire de la nuit.
Ah, c'était le soir plutôt,
oui.
Le banquet.
Ah, oui. Le banquet, c'est ce qu'on appelle la cena, donc qui est le repas du soir et qui va justement... permettre, du fait aussi du caractère un peu nocturne, certains loisirs qui seraient plus mal vus, en tout cas lors de la journée notamment.
Est-ce qu'il y a forcément toujours de la viande dans un banquet ? On l'a un peu évoqué, mais est-ce qu'il existait des banquets végétariens ?
Alors, des banquets purement végétariens, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait des banquets véganes ou autres. on va dire quand même que les Romains apprécient la bonne chair, hein, et donc souvent il y a quand même un repas carné. Ça ne veut pas dire que pour les citoyens, on va dire des classes inférieures, ils ne devaient pas forcément manger de la viande à tous les repas. Par contre, à la table d'aristocrate, je pense qu'il aurait été très malvenu de ne pas présenter des viandes onéreuses, exotiques, etc.
Et ces viandes ne sont pas forcément le résultat d'un sacrifice rituel ?
Non. Alors, à l'origine, le banquet, c'est vraiment consommer la viande qui a été sacrifiée, justement dans le cadre de fêtes religieuses. Ensuite, l'Empire notamment, on n'a plus forcément un sacrifice qui va servir justement à la nourriture qui sera consommée ensuite. Mais à la base, c'est quand même fortement lié sacrifice et banquet.
Qu'est-ce qu'on sait de la cuisine des Romains ? Alors, apparemment, il y avait des traités de
Oui,
de
alors vous avez Apicius, ça, ouais. Qui est un cuisinier du 1er siècle qui vit sous Tibère, qui a laissé justement un art culinaire où il présente des recettes toutes plus extravagantes les unes que les autres, à base de vulve de truie, de pieds de chameau ou autres trucs un peu étranges, on va dire. Apicius, il est aussi reconnu pour la qualité de ses sauces, puisque... encore aujourd'hui, hein, la bonne cuisine, elle se définit aussi par la manière dont elle va être agrémentée, épicée. Il faut quelque chose qui soit original aussi dans les sauces et dans les l'agencement des différents produits entre eux. Et vous avez aussi, et c'est ce qui va aussi permettre le développement des grands banquets, des citoyens s'intéresse aussi beaucoup à la gastronomie, à la cuisine. Et donc forcément, quand vous êtes en campagne militaire et que vous allez dans telle ou telle province et que vous voyez tel ou tel animal, vous allez vouloir le ramener à votre table ensuite. Et donc Apicius, notamment, on sait qu'il avait des lubies comme ça. Il partait, il prenait son bateau le matin pour aller chercher des huîtres ou d'autres crustacés. Et il pouvait parcourir pas mal de kilomètres comme ça pour parfois revenir sans rien parce que la qualité de tel ou tel produit ne l'avait pas satisfait.
Et il expérimentait comme ça des recettes avec tout ce qu'il trouvait. Enfin, peut-être pas tout quand même.
Alors peut-être pas tout, mais bon, quand même, il y avait des choses très très originales à sa table. Et pour l'anecdote, Apicius, c'est vraiment lui qui va développer vraiment la grande cuisine, ou en tout cas c'est le nom qui reste encore aujourd'hui. Et il se suicide, Apicius, parce que il est ruiné et il est inconcevable pour lui qu'il puisse ne plus proposer des mets onéreux. Et donc, il préfère se suicider plutôt que de baisser, en gros, la qualité de sa cuisine.
Mais il était à son compte ou il travaillait pour...
Alors, je ne sais pas exactement. Alors, visiblement, dans les grandes familles aristocratiques romaines, on pouvait embaucher comme ça des cuisiniers pour des fêtes familiales ou autres. Après, il y a dans beaucoup domus, hein, c'est les esclaves hein, qui...
Oui, c'est ça.
C'est vraiment, je pense, des grandes familles aristocratiques, peut-être la famille impériale d'ailleurs, qui pouvaient s'offrir le recours de grands cuisiniers comme ça. Et il n'y avait pas que Apicius. Hein. Apicius, ouais. C'est celui qui est resté aujourd'hui célèbre, mais il y en avait bien d'autres.
Hein. Et puis, il y avait les grands gourmets. Enfin, je ne sais pas, on dit toujours Lucullus. Il a existé, Lucullus ? C'était qui ?
Alors, je ne sais pas exactement, mais effectivement, il y avait des grands gourmets, des gourmands surtout. Hein. Et il fallait vraiment, comment dirais-je, offrir à ses convives quelque chose d'exceptionnel qui va marquer les esprits. Et le but aussi du banquet, c'est qu'on parle de ce banquet ensuite, le lendemain, en disant « Je suis allée chez Véronique, j'ai mangé quelque chose d'exceptionnel. » Voilà.
Et alors, pour ce qui est des boissons, qu'est-ce qu'ils buvaient, les Romains ?
Alors, la boisson, par excellence, c'est le vin. Alors, pas le vin tel qu'on le consomme, nous, aujourd'hui. Hein, c'est du vin qui est coupé. Avec de l'eau et avec des herbes, des épices, etc. Il y a plusieurs types de boissons et aussi tous les dérivés du vin, des liqueurs. Le vin romain est quelque chose de très sucré souvent, avec un goût un peu liquoreux ou madérisé, vous voyez. Mm-hmm. Et le plaisir des Romains, c'est soit de manger de boire un vin qui est agrémenté d'eau chaude avec des épices.
Genre vin chaud, quoi, voilà.
Genre vin chaud, ou à l'inverse, un vin glacé. Et le comble du luxe pour le Romain, c'est de boire du vin avec de la neige dedans, du vin neigé, en fait.
Oui, mais il neige pas très souvent non plus en non. Italie, donc en effet, c'est une rareté. Et donc c'était plutôt épicé comme cuisine, enfin c'est ça, épicé sucré aussi,
alors,
comme les boissons.
Alors sucré, visiblement sucré. Après, j'avais lu un article qui faisait de l'archéologie expérimentale, qui avait voulu reproduire les recettes d'Apicius. Alors, les recettes possibles, hein, parce que je ne pense pas qu'ils sont allés récupérer des pieds de chameau ou autre, mais surtout dans les sauces. Et finalement, pour nos palais, à nous, aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez insipide.
Ah oui ?
Oui.
Ah ouais, parce que ce qu'il faut voir, voilà, c'est que la culture culinaire... Enfin, bah, déjà, il y avait plein de produits qui n'existaient pas.
Oui.
Il n'y avait pas de tomates du temps des Romains.
Non, il
n'y
avait pas de tomates. Après, c'est surtout aussi de la cuisine à base de fruits, des figues, des raisins, des choses un peu compotées comme ça.
D'accord. Bon, alors on a mangé, mais alors quand on va au banquet, on ne fait pas que manger, n'est-ce pas ? On se distrait.
On se distrait,
alors,
tout
qu'est-ce
à fait.
Qu'est-ce qu'il y avait comme animation ? Animation de banquet.
Plusieurs animations. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de banquets. Et selon qu'il y ait des femmes ou pas, le tour du banquet va être assez différent. C'est-à-dire que vous avez des banquets qu'on pourrait appeler de banquets culturels, où vous avez des chanteurs ou des poètes qui viennent réciter des vers, chanter des chansons. Alors d'ailleurs, il y a un passage de Plaute qui nous dit que les chanteurs, ou qu'on appellerait les bardes, sont assez insupportables à la manière un peu d'assurance touriste qu'on
assurance
a envie
touriste,
de bâillonner.
Ouais, ouais.
Et a priori, ce n'était pas une légende, ça existait aussi. Donc vous avez des repas un peu comme ça, ou alors vous avez des repas qui ont un tour un peu plus obscène, beaucoup plus grivois, avec des plaisanteries, on fait des jeux, des charades. Et après, vous avez aussi des acteurs, des danseuses aussi, notamment des danseuses de Gades, qui sont des danseuses qui viennent de la province d'Hispanie, la Cadix actuelle en fait, qui elles sont des danseuses lascives. Et donc ça va aussi participer à l'image un peu sulfureuse des banquets qu'on peut avoir en tête.
Ça, c'est les banquets réservés aux hommes, non ? Pas
spécialement. Alors, oui et non, et on pouvait trouver des femmes aussi, mais effectivement, les danseuses allaient exciter plus les hommes que les femmes. Vous avez des courtisanes aussi qui peuvent être invitées dans ces banquets. On a compris hein, pour quel genre de plaisir. Et vous avez aussi mention de certains aristocrates qui vont embaucher des bouffons nains et qui vont beaucoup rire, aller voir danser ou se grimer ou faire des grimaces ou autre.
Et il y avait forcément des animations, entre guillemets, en plus du repas, quoi.
Alors, pas forcément, hein, mais dans les banquets importants, il y a effectivement des petits plus qui vont agrémenter ce repas. Après, dans les banquets publics, c'est surtout des jeux qui vont être organisés à la marge, justement, de ces banquets.
Mmh. Et donc, ces banquets publics, ouais, ils sont destinés à quoi, par exemple ?
Alors, c'est surtout des banquets qui sont organisés dans le cadre de fêtes religieuses. Donc, on va faire un sacrifice pour telle ou telle divinité. Et ces sacrifices, on les appelle des époulums. Et donc là, ça a vraiment un caractère religieux. Et souvent, d'ailleurs, on convie les divinités à banqueter avec les hommes. Et on a deux types de banquets qu'on appelle soit des lectisternes, soit des célisternes, où en fait, les banquets vont être, les dieux vont être représentés banquetant avec les hommes. Célisternes, c'est des divinités masculines qui vont être positionnées, allongées sur des banquettes. Et célisternes, c'est surtout pour les divinités féminines qui, elles, seront assises pour banqueter avec les hommes. Et c'est souvent des statues, en fait, qu'on va placer justement pour représenter ces divinités.
Ah oui, alors est-ce qu'il y a des tenues correctes exigées, des cadeaux à apporter, enfin, est-ce qu'il y avait d'autres, voilà.
Alors, ce qui prévaut, c'est vraiment d'avoir des tenues festives. Donc les hommes, eux, vont être habillés souvent de blanc et ils vont porter aussi des couronnes de fleurs sur la tête. C'est vraiment pour justement apporter un peu de fantaisie aussi. Et c'est des couronnes qui sont souvent très parfumées. D'ailleurs, on a des auteurs qui nous disent qu'ils ne supportent pas aller à des banquets parce que ça sent très fort les fleurs, les parfums mélangés. Et que des fois, ça coupe l'appétit, ça rend malade, en fait.
Ouais, on imagine. Ouais.
Et donc, on tire ses chaussures aussi hein, pour banqueter. On note ses chaussures pour s'allonger. Et donc, il y a toute une posture aussi qui est intéressante dans le banquet. Ce n'était pas des repas Covid, on va dire, puisqu'il y avait une vraie promiscuité entre les invités. Quand vous étiez allongé, vous étiez adossé quasiment à votre voisin, etc.
Et on apporte un cadeau ou pas
Alors, on apporte un cadeau, pas forcément. C'est surtout pour les anniversaires ou bien pour les rites, on va dire, de passage. Pour la naissance, par exemple, on va offrir des cadeaux pour le nouveau-né. Hein. Mais surtout, on va prononcer des vœux en l'honneur de l'enfant. Des choses qu'on espère lui voir arriver plus tard.
Des toasts, quoi.
Voilà, exactement.
Alors, est-ce qu'on pourrait, il nous reste 5 minutes, là, est-ce qu'on pourrait détailler peut-être un ou deux banquets typiques je ne sais pas.
Bien sûr. Alors, on peut parler notamment du banquet des funérailles qui est particulier puisque vous avez en fait plusieurs banquets qui vont jalonner en fait tout le rite funéraire. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir un nouveau partage entre le mort et les vivants. Établir en fait une sorte de nouvel ordre des choses à travers le partage de nourriture. Donc vous avez un premier banquet qui est organisé alors que le défunt est soit sur son bûcher funéraire, soit en passe d'être enterré. Et donc ce repas, on l'appelle le silicernium, qui vient en fait du silence, puisqu'on prend ce repas de manière silencieuse, en offrant au défunt soit sa nourriture sur son bûcher, soit au sol. On pose par terre en fait la nourriture qui va être destinée justement aux défunts. Et donc on prend ce repas, c'est un partage entre une divinité qu'on appelle Cérès, qui est une divinité agraire, et qui va être censée prendre en charge le défunt lorsqu'il sera sous terre, comme elle le ferait pour les plantes, etc.
Donc là c'est un repas sans animation, il n'y a pas de danseuse.
Alors là c'est le repas le plus austère possible, on ne parle pas. Et ensuite pour clôturer justement les funérailles, on a un autre repas qu'on appelle la Cena Novemdialis, veut dire en fait le dîner du 9e jour, c'est-à-dire qu'après 8 jours de deuil, la famille va pouvoir être réintégrée dans la société grâce à un banquet. Et là, ce qui compte, c'est vraiment la magnificence de ce banquet. On rend hommage aux morts en fonction aussi de l'apparat de ce banquet. Et on va aussi clore le deuil en se présentant dans des... On va ôter en fait ces vêtements noirs, sombres, qui signifiaient justement le caractère endeuillé de la famille en portant justement des vêtements étincelants, blancs, etc. Et les Romains, justement, vont juger aussi toute la qualité de ce banquet en fonction de la décoration, des tenues, des étoffes qui sont placées aussi sur les banquettes. On va avoir des lits en ivoire, en or et tout ça. Donc ça va servir aussi au caractère ostentatoire. À l'inverse, on a notamment un homme qui s'appelle Tubéron, qui a été promis à une grande carrière de magistrat et de prêtre, qui va être chargé d'organiser les funérailles de Scipion l'Africain. Et ça va causer un scandale parce que à la place des belles étoffes, il va mettre des pots de bouc sur les banquettes. Il va sortir la vaisselle misérable. Et Cicéron dit que Tubéron, en gros, pensait organiser les funérailles de Diogène le cynique, alors que finalement, il aurait dû envoyer tout ce qu'il y avait de plus beau, puisque c'était les funérailles d'un héros qui devait se produire. Donc ici, on a finalement la vision que plus on veut rendre hommage aux morts, plus on va justement offrir des mets, une décoration qui va être luxueuse et qui va vraiment rendre honneur justement aussi à la famille.
Mais il devait y avoir un gaspillage considérable, en fait, dans ces
banquets. Alors, il y a un vrai gaspillage. Il y a des lois somptuaires qui vont être votées, justement, pour réfréner le luxe dans tous les domaines, dont dans les banquets. Et ensuite, puisque ce n'est pas suffisant, en fait, les Romains passent outre ces restrictions. Auguste, lui, va aussi imposer, justement, des restrictions. Alors, les chiffres, je crois que c'est 200 sesterces par jour pour des banquets lambda. Et 1000 sesterces pour des banquets de mariage qui, là aussi, sont extrêmement somptueux.
C'est des taxes, quoi, en fait, c'est ça ?
Bah, c'est pas des taxes, c'est en gros des...
Ah, c'est des plafonds.
Voilà,
des plafonds. Ah, ne pas dépasser.
Voilà.
Et sinon, on donnait pas aux pauvres qui passaient ou aux esclaves les restes, éventuellement
Alors, il y a bien sûr les restes qui vont servir aussi à nourrir la maisonnée. Hein.
Quand même.
Mais... Faut quand même avoir l'idée, alors qu'on n'est pas dans les orgies qu'on va nous dépeindre, hein, mais on a quand même ce caractère de nourriture à profusion, etc., qui va vraiment être mis en avant.
Merci Pauline Huon de nous avoir mis en appétit comme d'habitude. Et bien on retrouvera, vous retrouvera dans l'EM, on va dire au prochain trimestre, pour une autre émission sur les Romains et leur rapport à leur corps.